sens, étymologie du terme en philosophie, c'est qu'il n'y a pas de monde extérieur, il n'y a que la conscience humaine, et que tout ce que j'appelle le monde extérieur, ce sont des images de ma conscience. La limite de cette philosophie idéaliste, c'est ce qu'on appelle le solipsisme. Je suis seul à exister, vous n'êtes que des images de ma pensée. Tant que les images ne me gênent pas, votre existence est garantie. Si les images me gênent, je les supprime, parce que ça donne des cauchemars, des images qui gênent. Vous voyez comment ça se dégage en politique, ou en morale, cette philosophie idéaliste du solipsisme. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ce sont des choses dangereuses. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer en philosophie ce qui fait la réalité du monde extérieur. Puisque je ne connais le monde extérieur que par des images, des perceptions. Alors peut-être qu'il n'existe que mes perceptions, et qu'il n'y a pas derrière un véhicule dans la réalité. Bon, je ne vais pas vous donner des cauchemars, mais voyez à quoi pensent les philosophes. C'est comme ça. Et alors, il n'y a pas de réponse en philosophie à ce problème qui se pose de cette manière. Qu'est-ce qui fait la différence entre une sensation et une image? Une sensation, c'est une image qui porte avec elle le sentiment de réalité. Une image, c'est une sensation, c'est une image qui ne porte pas avec elle le sentiment de réalité. Mais oui, mais il y a des sensations qui sont prises pour des images, il y a des images qui sont prises pour des sensations. Vous avez entendu parler des hallucinations, et des gens qui ont des voix, en fait, comment on dit, qui ont des visions, qui ont... Bon. Alors, et vous voyez, j'efface tout ce paragraphe, simplement je voulais l'indiquer pour situer le problème de la perplexité propre à la conscience kabbaliste. Il faut expliquer l'existence du monde. L'existence de l'homme ne fait pas problème, l'existence de Dieu ne fait pas problème. Et c'est pourquoi vous ne trouvez jamais dans la pensée traditionnelle de la Kabbalah un souci philosophique ou un souci théologique, sauf lorsque le Kabbalah décide, le kabbaliste décide d'aider le philosophe dans son problème ou d'aider le théologien dans son problème. Est-ce que c'est clair? Maintenant, et nous revenons à notre problème. La notion de symptôme qui va être employée, j'ai pas dû effacer les premières formules, mais enfin vous avez déjà en note ou en tête, pour nous faire comprendre Yesh, B, Aïn. Il faut d'abord faire apparaître un Aïn dans le Yesh.
Et
c'est ça que je vois maintenant. Alors là, faites bien attention, je vais vous dessiner des images. Mais retenez cela comme image. Plus tard, quand vous aurez beaucoup étudié, vous verrez que ce n'est pas seulement des images. Mais pour le moment, il faut les prendre comme images. Sinon, on ne peut pas démarrer. Parce que nous allons voir que la Kabbalah va nous enseigner des choses très simples, des schémas très simples. Simplement, ce que je veux dire, du point de vue de la méthode, c'est qu'il faut apprendre énormément de choses compliquées pendant des années et des années pour arriver à ces choses simples. Je vais essayer de vous les transmettre simplifiées. Et donc, prenez ça au niveau d'images. Et voilà, à partir d'un point de l'être absolu antérieur, pris comme centre de ce qui va se passer, va se produire un phénomène de tzimtzum dans le deuxième sens, c'est-à-dire rétractation. Et une sorte de rétractation. Et alors, je vais déjà employer le langage de la Kabbalah. Quand je parlerai de l'être, je parlerai de la lumière. C'est la seule éclairage, si j'ose dire, que nous avons quant à l'être. Eh bien, la lumière qui occupait, et tout ça n'est qu'image, puisque la lumière n'occupe pas de place, puisque ici, ce n'est pas de l'espace, il s'agit de l'espace d'être. Okay? La lumière qui occupait un point va être retirée du centre à la périphérie, et il va apparaître une sphère. Vous suivez jusque-là? Alors, Tzimtzum, dans le deuxième sens, c'est rétractation. Et l'infini absolu va se vider d'un point dans lequel va apparaître ce que j'appellerai plus tard l'espace du monde. Il fallait trouver un moyen de faire apparaître ce vide d'être où le monde sera logé, et que j'appellerai l'espace en français, mais retenez déjà, mettez ça dans un coin, que le terme employé par l'hébreu ici, ce sera le monde halal. Et rappelez-moi, si j'oublie halal, rappelez-moi si j'oublie chet lamed, de vous expliquer le sens étymologique de ce terme. C'est pas pour rien que c'est le mot de halal qui signifie le vide des mondes, le vide dans lequel les mondes sont logés. Alors qu'est-ce qui se passe? Un phénomène, mais voyez ça en trois dimensions, un phénomène de rétractation de la lumière à partir d'un point pris comme centre, et qui fait apparaître donc une sphère. Ici je vous le marque comme circonférence, mais voyez une sphère. Pourquoi? Parce qu'à partir du centre, la lumière est refoulée à l'extérieur. Et c'est une sphère qui apparaît, et non pas n'importe quelle autre figure géométrique dans les trois dimensions, parce que la lumière antérieure était simple. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de côté. Et, tout est unidimensionnel, je veux dire, ce phénomène de rétractation est égal dans toutes les directions à la fois. Et par conséquent, c'est une sphère qui apparaît. Bon. Alors ça, c'est le tsimtsum dans le deuxième sens. À partir d'un point pris comme centre, va apparaître un halal, c'est-à-dire un espace, un vide absolu d'être dans lequel le monde sera en fin de compte logé par un processus que je décrirai peut-être que en fin de cours ou demain seulement, mais par un processus qui va nous permettre donc de résoudre notre énigme de départ qui était l'inversion de la donnée philosophique. Nous allons substituer Beria Yesh Be'ayin, du Yesh va venir dans le Ayin, okay, à la notion incompréhensible de Beria Yesh Me'ayin. C'est clair ? Et la notion transitoire, c'est l'apparition de ce halal comme résultat d'une néantisation d'un point d'être, de l'être absolu, et qui s'appelle Bria Ayin Me Yesh. C'est le néant qui est créé à partir de l'être. C'est clair ? Alors, laissons de côté tout risque de vocabulaire païen. Je vous donnais un exemple tout à l'heure. Essayons de réfléchir à cela. Et vous vous rappelez que le grand principe de la tradition juive, c'est de substituer la problématique morale à la problématique métaphysique. Alors je vais donner des exemples au niveau des valeurs morales de cet acte de tzimtzum dans le deuxième sens que dans le vocabulaire général de la tradition on appelle Gvura. Gvura. Alors on va réfléchir sur ce mot de Gvura. La vertu du Gibor. Vous allez voir pourquoi je ne traduis pas, parce que je voudrais que vous compreniez par vous-même comment il faudrait penser la traduction. Bon, vous allez ouvrir un dictionnaire, vous verrez Gibor vaillant, Gibor fort. Mais quel sens ça peut avoir de dire, en parlant de Dieu en tant que créateur, qu'il est Gibor ? Être plus fort que quelqu'un de plus faible, c'est pas être fort. Être plus fort que quelqu'un de plus fort, on ne peut pas. Alors quel sens ça a d'être fort ? Quand je dis de quelqu'un qu'il est fort, qu'est-ce que je veux dire ? La réponse à la tradition, c'est être fort n'a de sens que si on est plus fort que soi-même. Parce qu'être plus fort de quelqu'un de plus faible, c'est pas de la force, c'est tout simplement que l'autre est plus faible. Et être plus fort de quelqu'un de plus fort, on peut pas. Donc il y a deux places pour la notion de vaillance qu'en termes moraux, être plus fort que moi-même. Et la Mishnah de Pirkei Avot dit « Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. » De qui peut-on dire qu'il est Gibor ? Celui qui est plus fort que ses propres instincts. Et puis on cite un verset, Tov Gibor Milochet Ir. Un verset qui dit, le Gibor, le vaillant, est plus grand que celui qui conquiert une ville. Celui qui conquiert une ville, c'est pas de lui qu'on va dire vaillant. Parce que s'il a pu conquérir la ville, c'est qu'il était plus fort qu'elle. Enfin, ça veut dire qu'elle était plus faible que lui. Alors c'est pas de la vaillance. C'est tout simplement une mise au point dans l'ordre du rapport des forces. Vous voyez ? Alors la notion, oui, la grande différence que nous avons avec la mentalité qui est derrière le français. Derrière le français, la vertu, ça vient, le mot de vertu, ça vient du mot latin vir, viris, ken, virtus, vient de là, et ça veut dire la force de celui qui conquiert la ville. Vous voyez, le romain est vertueux quand il conquiert une ville, alors que l'hébreu est vertueux quand il domine ses instincts. Vous voyez la différence d'emblée. Alors, rapportons cette analyse à Dieu. En tant que créateur, et nous allons voir apparaître la notion de Gvura comme Dieu créateur. Eh bien, c'est très simple. Quel serait l'instinct dans l'être de Dieu ? C'est le fait que l'absolu est absolu. Et le fait que l'absolu est absolu, ça veut dire qu'il occupe tout l'être. Itpashtut. Le yetzer du créateur, c'est quoi ? Okay ? Itpashtut, ça veut dire, on va traduire tout ça, qui peut m'aider à traduire ? Itpashtut, envahissement. Okay ? Itpashtut, se répandre, se... Vous voyez, c'est clair ? L'itpachet. Hein? L'instinct de itpachtout, c'est-à-dire l'affirmation de soi. Okay? Alors, pour que l'autre ait une place, il faut que je me restreigne dans ma itpachtout. C'est ça qui s'appelle Gebura. Okay? Cet effort de tzimtzum, de moi en moi, qui fait apparaître une place pour l'autre. Et c'est d'emblée, en termes de valeur morale, que ça nous est expliqué. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Laquelle ? Laquelle ? On a déjà conquis Paris ? Non. Non, je ne veux pas parler de ça, parce que... mais c'est à l'envers ce que vous dites.
Oui, oui.
Bon. Non, on n'a pas encore conquis la Syrie. Alors, je reviens au problème. D'ailleurs, on n'a rien conquis du tout. Vous remarquerez une chose, c'est que toutes les conquêtes d'un pays quelconque, dans toute l'histoire de toutes les sociétés, se font de l'extérieur des frontières à l'intérieur. Toutes les guerres d'Israël avec l'environnement se font du centre à la périphérie. On ne sait pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça n'a rien à voir. Oui. Non, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais le verset dit « Milou et Taharest Rishipshua ». Okay. Verset 28 du chapitre 1 de la Genèse. Regardez bien le verset. Le commandement au premier homme. Voilà comment on occupe une terre. Remplissez la terre et conquérez-la. Normalement, si ce livre était gros, il aurait dû dire conquérez la terre et remplissez-la. Okay. Alors, voyez comment ça se passe. Juste à l'inverse. Vous avez une fois visité le Golan. Vous n'avez parlé que du Golan. Okay. Eh bien, visitez une fois avec un archéologue. Et puis après, vous poserez la question, ce pays est quoi, juif ou syrien? Mais visitez d'abord le pays. Bon, alors revenons au problème. Et la vraie question, c'est finalement, qu'est-ce que les Français font en France? Qu'est-ce que les Juifs font en Judée? C'est ça le vrai problème. Allez, on revient à notre question. Alors, là... Et cette deuxième notion de Tzimtzum, c'est donc, elle va s'appeler Geboura. Et je vais essayer de vous rendre sensible au fait que cette force de Geboura opère constamment, de façon éternelle, depuis que le monde est créé. Enfin, matmid, comment dirons-nous cela, tamid, permanente. Okay. Depuis l'instant où Dieu décide de créer un monde, doit apparaître ce halal. Okay. Et alors, pour que ce halal ne soit pas détruit en tant que halal, et je veux dire tout de suite contre quoi il faut lutter, il faut donc que cette force du Tzimtzum continue à opérer sans arrêt pour que la périphérie du halal soit préservée contre l'irruption de la lumière extérieure qui a tendance à revenir d'où elle est partie. Vous suivez l'analyse de l'image? Alors ici, à la périphérie extérieure du halal, de l'intérieur vers l'extérieur, j'ai une force considérable qui s'appelle le Geboura. Le monde n'existe que en relation à cette vertu de l'être absolu que nous appelons Dieu en tant que créateur, qui préserve l'espace du monde et qui, par conséquent, lutte contre lui-même d'une certaine manière. Tout ça, ce sont des images, mais vous comprenez, de façon permanente pour que le monde ait une place pour y être situé. Et que si cette Geboura fléchit, eh bien, tout l'être qui avait été rejeté à l'extérieur et qui est en souffrance dehors, un peu langage postal, okay, eh bien, a tendance à revenir et à détruire les mondes. Est-ce que c'est clair? Et alors, jusque-là, ça va? Je vais reprendre ça. Je vais simplement ajouter une phrase. Si la Geboura qui opère à toute cette périphérie de la circonférence du halal pour repousser l'être qui était dedans, dehors, et nous verrons que c'est avec une force terrible que cet être qui était dedans mais qui est dehors veut revenir. Donc il faut qu'il y ait une force colossale pour le repousser à la périphérie. Cette force est appelée Geboura. Si cette force fléchit, l'impétuosité de l'absolu rentre dans le halal et détruit les mondes, les efface. Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors on apprend, chose dangereuse, on apprend que les actes des hommes influent sur cette force. Si l'homme fait le bien, la Geboura est grande et le monde est protégé. Si l'homme fait le mal, la Geboura est atténuée, elle est atteinte, et le monde est moins protégé. Et quand il y a un trou quelque part, irruption de l'être antérieur, il y a destruction du monde, chaos. Mais le chidouche de la tradition juive, de la tradition biblique, c'est que cette force-là dépend d'une certaine manière, nous verrons à quel niveau, parce que quand même, il y a alliance avec le monde, d'étape en étape de l'histoire, et cette alliance garantit qu'il n'y a pas déluge, qu'il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple...
La Geboura est humaine?
Non, la Geboura est celle de Dieu, mais elle dépend du mérite des hommes. Et, enfin, je vous dis, il n'y a pas de déluge. Enfin, ce qui a été promis, c'est qu'il n'y aurait pas de déluge d'eau. Déluge de feu, on n'a pas dit. C'est autre chose. Alors, une demi-minute.
en vous donnant une autre manière d'expliquer. Étant donné que l'état antérieur de l'être, avant le Tzimtzum, c'est ce que j'appellerais l'absolu, c'est-à-dire la substance simple. Le Tzimtzum va rejeter une quantité de lumière qui occupait cet endroit du tout, où sera le monde, à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, il y a une impossibilité, qui s'appelle en hébreu Arkava, complexité. La lumière ici va devenir complexe, parce qu'elle est la lumière simple, comme elle était, plus cette quantité de lumière d'être qui vient lui être ajoutée. Ceci, la lumière simple ne le supporte pas. Vous voyez, une sorte de tension entre deux volontés en Dieu. Créer le monde, et cependant c'est impossible. C'est le résultat de la création d'Afka. Relisez bien votre verset. Bereshit, bara Elohim, shamayim et haaretz. Résultat de bara. Comme résultat de la création. Non. Alors on va prendre un verset. Attendez. Vous avez lu tous ces textes avec des idées de lecture préconçues, probablement. Rappelez-moi qu'on le relise comme c'est écrit. Ok? Et la terre est devenue comme résultat de la création. Je vais ajouter, je ne sais pas si, madame, j'ai terminé l'analyse, c'est bien clair?
Il y a quelque chose, je crois que ça a été un peu vite. Quand vous dites qu'il faut préserver le halal pour que la lumière extérieure ne la réinvestisse
pas. Je voudrais que vous repreniez ça. Oui, avant que ce halal n'ait apparu, tout ceci était absolu. Cette quantité d'être qu'il y avait dans le halal, et pour que le halal existe comme halal, est rejetée à l'extérieur du halal. Et cette quantité d'être rejetée à l'extérieur du halal a tendance à revenir, et cette tendance est Hurban Olam, Hurban et Halal, et Ahriv est à halal, le détruire en tant que tel. Et ce que j'essaye de faire sentir, c'est la force colossale qui joue. Et contre de l'extérieur vers l'intérieur, qui risque d'annuler l'endroit du monde, et corollairement doit jouer une force opposée qui préserve les limites de ce halal. Cette force s'appelle Geboura. Redescendons, c'est pas une descente, mais au niveau du problème moral. Pour que l'autre soit préservé dans mon monde, il faut que je me surveille dans la restriction de moi. Dès que je laisse mon égoïsme se répandre, l'autre est annulé. Oui. Alors cette force s'appelle Gevura.
Il y a un dicton qui dit se mettre entre parenthèses. La nature a horreur du vide, alors pour préserver le vide, en final, il faut une force.
Par exemple, vous pouvez l'exprimer comme ça. Vous pouvez l'exprimer comme ça. Oui, on a réhabilité le Moyen-Âge. Pourquoi ? Halal, j'y arrive. Dans ce terme de halal, qui signifie le vide, il y a fondamentalement en hébreu une idée de profanation. C'est pourquoi à la limite, au bout de la chaîne des significations que nous allons voir, le mot de halal qui signifie le vide de l'espace, halalit, ça veut dire le halal, c'est l'atmosphère, le vide intersidéral, enfin, l'espace du monde dans lequel les mondes sont logés. Et le nôtre, qui est en fin de compte l'objectif du Créateur, puisque c'est là que ça aboutit, tous les processus d'émanation des mondes, à partir de l'être absolu, le nôtre, est au terme de toute une chaîne infinie de Tzimtzum après Tzimtzum après Tzimtzum pour arriver à notre niveau. Okay? Bon, il faut s'habituer à tout cela, notez bien comme c'est dit, et vous réfléchirez, okay? Pour identifier vos expériences de la vie. Parce qu'ici, le schéma est théorique. Et c'est un schéma récapitulatif qui explique tout à tous les niveaux. Est-ce que c'est clair? Pour identifier chacun dans son expérience. Parce que si je vous donnais un exemple qui va pour l'expérience de un, il ne va pas pour l'autre. C'est pour ça qu'il est interdit d'étudier la Kabbalah avec plus d'un élève à la fois. Vous voyez toutes les interdictions qu'il faut violer pour que le centre Rashi existe. Je ne sais pas si Rashi, qu'est-ce qu'il pense là-haut de nous, mais enfin, on va essayer. Et alors, le mot de halal, dans la série des termes que je vais vous énumérer, signifie en fin de compte le cadavre. Halal. Vous savez ça aussi. Quel rapport entre le cadavre et le vide? C'est l'idée que là où il y avait de l'être, il n'y a plus. Et donc, c'est clair. Et donc, cette opération du Tzimtzum c'est littéralement une profanation d'être. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Effectivement, vous voyez, je vous donnais toute une série de termes de la même racine. Hol, qu'on traduit par profane, et qu'il faudrait dire étymologiquement par profaner. C'est de la sainteté évacuée, il reste le profane. La sainteté était antérieure à la profanation, au profane. Alors, hol signifie d'abord en hébreu un trou. Hol, c'est un trou. Hol, c'est troué. Vidé.
Mais c'est du sable.
Attends, je sais aussi ça, je vais y arriver. Je ne mélange pas tout. Alors, vous voyez, pourquoi le sable s'appelle hol? C'est holayam. C'est cette espèce de déchet du milieu de la vie, mais qui n'est plus vivant. Si vous voulez, d'une certaine manière, prononcé au niveau de l'image, la vie de la mer produit un déchet qui s'appelle le sable, qui lui est de l'être du monde, mais privé de capacité de vie. Le hol, c'est ce d'où ne sortira pas, ne sort plus aucune vie. Le hol, c'est l'être du monde privé définitivement de ce qui faisait qu'il était vivant. Vous voyez comment les notions s'organisent dans la langue hébraïque à travers une constellation de significations qui n'a rien à voir avec les mots français dont nous nous servons pour les traduire. La connotation de sable va dans tout autre contexte culturel en français. La connotation de sable en hébreu, c'est cela, ce qui reste du vide d'être, comme le halal. Vous voyez que cette comparaison, vous serez aussi nombreux que le sable de la mer, c'est peut-être pas une bénédiction ici. Quand le verset nous dit aussi nombreux que les étoiles du ciel, peut-être, mais comme le sable de la mer, c'est peut-être pas une bénédiction. De quoi il s'agit? Vous voyez qu'on ne peut pas lire les textes hébreux sinon à travers la langue du texte, qui est la Lashon HaKodesh, et qui a une constellation de sens qui n'a rien à voir avec ce que nous traduisons lorsque nous traduisons.
Le sable du sol, c'est le sable de la mer, le sable de l'eau, on dit que l'eau, c'est la Torah, peut-être que...
Ça, ce serait une comparaison au niveau du... Ça, ce serait une comparaison au niveau du Midrash. Essayez de comprendre le parallèle de sens entre profane et sable. Alors, si je vide la Torah de sa sainteté, il reste du sable. Et c'est ce sable qu'on égrène à l'université, quand on étudie la Torah à l'université. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une profanation perpétuelle? On se perd dans les sables. Et finalement, on cherche les traces de la Bible dans les sables. Bon. Il y a un seul mot que je ne comprends pas en français, peut-être vous allez m'expliquer. Pourquoi on dit sabler le champagne? Qu'est-ce que ça veut dire ça, sabler le champagne? Je ne comprends pas. D'où ça vient? Quelqu'un sait d'où ça vient? Pardon? Le petit sablé, hein?
Non, je ne crois pas.
C'est un joli midrash.
C'est parce que c'est un vrai champagne. C'est bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites bulles, mais ce n'est pas de la mousse. Dans la bière, il y a de la mousse au-dessus.
C'est du sable.
Mais dans le champagne, c'est des petits grains à l'intérieur du liquide.
C'est du halal. Mais c'est joli, ça. C'est joli. Mais c'est sûrement un midrash.
C'est vrai, le champagne.
Non, c'est sablé.
Ah oui, possible. C'est bon. Ça, c'est plus vraisemblable, peut-être. Vous l'avez inventé, vous saviez? Ah bon. C'est pour ça qu'on dit sablé marana.
Les champenois disent sablé. Les champenois disent sablé.
Sablé.
Les champenois.
Avec elle.
Oui.
Sablé marana.
Écoutez, on peut. Donc, tout simplement, un linguiste, on pourra chercher ça dans un dictionnaire étymologique. Si quelqu'un en dispose, peut-être vous nous direz demain. Oui. Bon. Alors, oui, pardon. C'est Gemura. Non, oui, oui aussi, mais pas plus que ça. C'est une force qui s'appelle El Shaddai, d'ailleurs, dans le nom et dans la série des noms sacrés, c'est El Shaddai. C'est une force qui repousse à l'extérieur l'être antérieur, de telle sorte que la place du monde soit préservée. J'essaye de trouver une image qui serait un peu plus claire. Bon, je vous ai donné l'analyse morale. Restreindre ma tendance à l'expansion qui s'appelle l'égoïsme pour laisser place à l'autre. Je viens de lire dans le journal que, avec un très beau livre de Vladimir Yankelevitch vient de paraître, Le paradoxe de la moralité, quelque chose comme ça. Oui, j'aimerais bien l'avoir si c'est possible. Et d'après la recension que j'ai lue, il retrouve une intuition de ce dont nous parlons, en disant que le paradoxe de la morale, c'est une tension entre l'angélisme, qui est l'altruisme, et l'égoïsme. Okay. Vous voyez à peu près, c'est ce problème-là que nous allons étudier très rapidement. C'est-à-dire que l'être se définit d'abord par une capacité d'expansion totale, ce qui correspond dans les valeurs morales à l'égoïsme, dans le vocabulaire des valeurs morales à l'égoïsme. Il faut que je restreigne cela pour qu'il y ait place pour l'autre. Dans notre équation fondamentale Dieu-le monde, l'autre que Dieu, c'est le monde. Et donc Dieu, en tant qu'être absolu, doit restreindre son occupation de l'être, okay, de cette sorte de laisser une place au monde. Cette force est permanente. Elle n'a pas lieu une fois pour toutes. Elle est permanente parce que s'il y a un instant de fléchissement, le monde se détruit parce que l'être revient là où il était. L'être antérieur revient là où il était. Voilà, habituons-nous à cette idée. Je voudrais vous donner plusieurs principes dans chaque cours pour avancer un peu plus vite. Même si c'est encore difficile à imaginer, notez-le et réfléchissez par vous-même. Simplement, le chidouche de la tradition juive, c'est que le sens fondamental d'une telle notion s'entend d'abord au niveau moral. Quand je dirais par exemple que l'acte créateur est l'acte moral par excellence, parce que l'acte créateur, c'est faire exister autrui. Et que l'acte moral est donc un acte créateur. Par rapport à moi, autrui né, EST, ne peut être que dans la mesure où je lui laisse place. Et nous verrons que cette vertu qui s'appelle Gevura a une dimension d'elle-même qui s'appellera Chesed. Cette Gevura, c'est Chesed. Le résultat de Gevura, c'est que l'être va donner l'être à autrui. Et ça s'appelle Chesed, donner l'être à autrui. Mais pour que l'être soit donné à autrui, il faut qu'il y ait Gevura, pour qu'il y ait une place pour autrui. Est-ce que c'est clair? Et cette force-là est permanente. J'ai ajouté une chose dangereuse. Enfin, dangereuse, c'est pas le mot. Inquiétante. C'est que la force de cette Gevura dépend du mérite moral des créatures. Plus les créatures agissent dans le bien, cette Gevura est forte et le monde est protégé. C'est la notion d'alliance. Dieu contracte l'alliance avec qui se dirige vers l'être de tzaddik. Celui pour qui il a voulu créer un monde. Celui qui est droit à ses yeux de créateur. Et cette alliance protège la Gevura. Et elle donne possibilité à Chesed de s'effectuer. Chesed, c'est l'être que le En Sof, le Haïn absolu, va donner dans le Halal. C'est des Horot de Hasadim, des Horot de Chesed qui vont revenir faire exister le monde. Mais pour que la place du monde existe, il faut qu'il y ait Gevura. C'est clair? Alors, dans l'ordre de la création, Chesed précède Gevura. Dans l'ordre de l'intention des mondes, Gevura précède Chesed. C'est clair? Bon, ça je dis pour ceux qui ont déjà un peu touché à ces problèmes. Alors je vais vous citer un verset qui enferme ce paradoxe apparent. Gavar alenu chasdo. Verset d'Epsom. Gavar alenu chasdo. Gavar Gevura alenu sur nous chasdo. Son chesed est Gevura pour nous. Gavar alenu chasdo. Comment on traduirait ça? Bon, il faudrait ouvrir un livre d'Epsom. Son chesed, sa charité. Charité, chesed, ça veut dire donner. C'est altruisme, c'est ça chesed. Le fait qu'il veut donner l'être. Gavar a grandi pour nous. Okay? Vous voyez qu'on ne peut pas traduire ces versets-là. Il faut les entendre en hébreu. Gavar alenu chasdo. Son chesed pour nous se fait gevura sur nous. Mais nous entrons dans un univers spirituel dont le véhicule exclusif est l'hébreu de la Bible, et qu'on ne peut pas traduire ces choses-là. Je ne sais pas comment j'arrive. Moi-même, je ne sais pas. Pour moi, c'est un mystère. À vous faire passer du français à l'hébreu. Mais c'est vous qui le faites. Et je ne sais pas comment vous faites. Et vous suivez ce que je veux dire. Okay. Moi, je ne sais pas. Et j'arrive à peine. Il y a 48 heures, j'étais encore là-bas. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut faire une mutation d'identité. Se réhébraïser. Mais pas un hébreu qui vous traduit des mots français. Okay. Un hébreu qui exprime la vérité de l'hébreu, et que nous appelons le Lachon HaKodesh. Est-ce que vous comprenez là l'impossibilité de la traduction? Bon.
La Gevura, c'est vraiment alors l'alliance, parce qu'il y a réciprocité.
Attendez, la Gevura, c'est le
premier... La Gevura de Dieu se presque ce...
Vous avez raison.
L'homme est lié à ça.
Oui, dépend du mérite. Malgré tout, oui. Malgré tout, nous verrons qu'il y a, du côté de Dieu, une infinie patience et qu'à l'abri de laquelle nous nous trouvons. Dieu donne plus que nous nous donnons. Est-ce que c'est clair? Parce que, en dépit des fautes qu'il y a sur terre, cette Geboura joue. C'est donc que le recette de Dieu est incommensurable à nos mérites, à nos comportements. Mais il y a saturation. Quand il y a saturation, alors cette Geboura est suspendue, hurban. Et nous arriverons rapidement à l'idée de chaos. Peut-être déjà aujourd'hui, sinon demain. Mais vous comprenez, ça c'est très bien ce que vous avez dit. Le projet de création implique une alliance. Mais sachons qu'un des deux partenaires est incommensurablement plus en alliance que nous. Nous profitons de sa décision qu'un monde soit. Et nous sommes à l'abri de cela. Et c'est ce que nous appelons Erech HaPaim, une infinie patience du Créateur. Il y a un contrat. Parce que finalement, le monde ne sera confirmé que s'il le mérite. Mais le sursis qui est donné jusqu'à ce que ce mérite soit jugé est infini. Cependant, il est infini, mais il y a des moments de saturation. La patience comme telle est infinie à chaque moment, mais le temps de la patience est limité. La patience est infinie, mais pas le temps qui est donné. Nous avons des rendez-vous. Et quand des rendez-vous de jugement. Et quand le jugement fait apparaître que le monde ne mérite pas d'être suffisamment, il est effacé, on recommence. Récit du déluge, par exemple. Où le mot qui est employé par la Torah, ce n'est pas détruire, c'est effacer. C'est-à-dire, la matière d'être de l'homme est préservée, mais toutes les formes qu'elle avait prises sont effacées. Et on recommence. Jusqu'à ce que ça réussisse. Est-ce que vous suivez? Emche et kolayekum. Emche, c'est-à-dire j'effacerai un lavis. Puisque c'était de l'eau. Alors il y a deux manières d'effacer. La manière douce, c'est par l'eau, midata reset. La manière dure, c'est par le feu, midata din. Là, je vous dis que, pas vous nous inquiéter, mais enfin, il y a une alliance que le déluge d'eau n'y aura plus. Le déluge de feu, on n'a pas parlé. Or, l'humanité a déjà disposé tout ce qu'il faut sur la planète pour qu'il y ait possibilité d'un déluge de feu. Alors, c'est un rendez-vous inquiétant qui est là de notre temps. Bon. Oui, s'il vous plaît.
Ça ne paraît pas être comme l'union, alors où placez-vous ce...
Non, ce halal, ce n'est pas seulement un vide d'espace, c'est un vide d'être. Prenez, il traduit, nous pouvons nous appuyer sur la notion de vide chez Pascal, le traité sur le vide. Cette notion-là, vide d'être, ce n'est pas seulement l'espace, c'est même vide d'espace.
Mais alors, est-ce que ça peut traduire ce terme de néant?
Oui, oui, le halal est néant, et néant d'être. Dans ce néant, l'être va revenir.
Mais... Par rapport à l'absolu de Dieu,
oui. C'est une néantisation d'un point d'absolu. Alors, je n'ai pas fini la série des mots. Allez, chol, on s'était arrêté là. Ken?
Vous avez par exemple le mot qui signifie le malade. Cholé.
Il se rattache aussi à ses racines. Et la maladie, elle est de l'ordre d'un vide d'être. Elle est de l'ordre de la profanation. Cholé, c'est la transition entre hol et halal. Lorsque la maladie réussit, l'être devient halal, c'est-à-dire cadavre. Vous voyez l'organisation des mots. Et aussi, la racine, les athil, hahel. Et au commencement, il y a le vide. Au commencement de l'être du monde, il y a le vide. Commencer, c'est profaner dans ce sens-là. Azuchal, likro, veshem, hachem. Regardez Rashi, je dis ça pour les plus avancés. Rashi vous dit, c'est l'or, lachon atchala, c'est lachon chulin. Parce qu'il y a un lien entre les Ahel et les Halel. Bon, alors vous voyez tous ces termes qui s'organisent autour du même mot. Je voulais simplement faire comprendre que pour qu'il y ait une place pour le monde, il faut d'abord qu'il y ait un vide d'être quelque part. Et ce vide, et même vide d'espace, ce n'est que très tard dans l'émanation de l'être, dans ce Halal, que l'espace et le temps apparaîtront eux-mêmes comme dimension de notre existence dans les mondes d'en bas.
Aussi Chiloul le Shabbat.
Hein?
Chiloul le Shabbat.
Par exemple, Chiloul, oui. Chiloul, c'est un comportement qui évacue la sainteté. Il reste profanation. Halila. Okay. Mahol, vous voyez? La ronde. Bien, alors, laissons maintenant tous ces termes de ce côté. Retenez l'idée de base. Okay. Il y a une force considérable qui doit jouer pour garantir l'existence de ce non-être qui est le halal. Et alors, et je vous avais dit tout à l'heure, la lumière qui a été refoulée à la périphérie, et la périphérie est sphérique, parce que la substance antérieure était simple. Vous savez que c'est la chose la plus difficile à penser pour la pensée humaine. La pensée humaine s'accroche à la complexité et commence à réfléchir. Mais elle ne peut pas comprendre le simple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une équivalence absolue entre l'absolu et la substance simple. Ça vous fait apparaître l'importance de la notion d'unité que nous retrouverons dans le tikkun, dans le troisième cours, dans le troisième sujet. Et alors, c'est de cet être qui était refoulé à l'extérieur que va se produire la rentrée de l'être dans le halal. Et c'est ce qui nous explique l'expression Beria Yesh Be'ain. Le Yesh va revenir dans le Haïn. Alors là, il n'y a plus aucun obstacle intellectuel à penser cette notion. Okay. Créer, ça veut dire faire entrer de l'être dans le néant. Qu'est-ce qui était difficile dans la notion de création philosophique? Que l'être apparaisse à partir du néant. On a appris que c'est tout à fait autre chose. L'être vient dans le néant. Et c'est pourquoi il fallait une notion préalable du néant qui apparaît à partir de l'être. Est-ce que c'est clair jusque-là? Là, nous allons voir qu'il y a un processus à quatre temps que je vais simplement amorcer aujourd'hui. Et là, nous retrouvons ici, dans l'intersection entre la droite et le cercle, ici, c'est une sphère coupée en plan, si vous voulez. Alors, d'un point, je vous avais dit, c'est là que je retrouve ça. Je vous avais dit, d'un point de l'être absolu pris comme centre, et il est important de savoir c'est n'importe quel point possible. Parce qu'en fin de compte, lorsque la lumière revient pour faire exister l'être du monde, elle a tendance à revenir jusqu'à ce centre. Et là où elle revient, il y a une personne humaine. Donc il est important de savoir que le point de départ du Tzimtzoum est indifférencié. Parce que, comme dit la Gemara, tout homme doit dire « c'est pour moi que le monde a été créé ». Ça instaure la dignité de chaque un dans l'humanité. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce point est n'importe où dans l'être. Parce qu'en fin de compte, il est important de savoir que ce halal, c'est le lieu de nos mondes communs, chacun d'entre eux étant génial pour lui-même. Au centre de chaque personne humaine, il y a ce halal, ce centre du halal qui fait le monde, lequel monde est habité par d'autres. Mais il est important de savoir que chacun est centre de ce halal. En fait, on trouve dans les textes de morale que ce halal est situé dans le côté gauche du cœur de chacun. Bon, pourquoi on étudie ça d'autre part? Mais c'est ce qu'on appelle aussi, les cavités du cœur sont appelées halal. Mais dans le même sens. Il y a halal yémani, halal smoli. C'est dans halal smoli que se situe, ce centre, au point de départ. Alors, nous arrivons là. Tout a été opacifié par la vertu de Geboura, par la force de Geboura, pour que la lumière extérieure ne vienne pas détruire le halal. C'est clair? Eh bien, sous un orifice, un point dans la sphère extérieure, par lequel va entrer un cave. Cave, ça veut dire une ligne, un rayon de lumière. Cave. Okay. Et cela s'appelle, dans la chambre de la Kabbalah, dans le langage de la Kabbalah, un tsinor. Tsinor, c'est un conduit. Comment on dit, un tuyau,
oui.
Un tsinor. Alors, je vais vous parler de ce tsinor qui s'accroche ici à un point du centre où on va donner la permission à cette lumière qui a été retirée de revenir pour être l'être du monde. Vous suivez? Mais si elle revenait comme elle était partie, la place du monde serait détruite, de nouveau. Parce qu'à partir de ce point où la lumière rentre, il y aurait diffusion totale, absolue, instantanée, et le halal disparaît encore. Petite parenthèse, vous comprenez que cette notion de tzimtzum est une notion méthodologique et non pas du tout au niveau de la réalité, puisque nous voyons qu'elle est impossible. Dès que le tzimtzum se fait, il se détruit. Et il se fait, il se détruit de façon permanente pour que le halal puisse exister. Et qu'est-ce qui garantit cette existence, la Gevura? Mais je vous ai décrit un Tzimtzoum de telle sorte de comprendre qu'il n'y a pas de Tzimtzoum. Puisqu'il ne peut pas y avoir de Tzimtzoum. Bon, faites bien cet effort, lentement, de suivre ce raisonnement. Okay. Et alors là, je joue Tzimtzoum dans le premier sens. C'est-à-dire, si la lumière venait dans toute son intensité, revenait dans toute son intensité, le halal disparaît. Alors c'est une lumière ici, diminuée, compressée, diminuée, à l'infini, dans le sens du Tzimtzoum talmudique. C'est une trace qui nous est rendue. Parce que si c'était la lumière elle-même, elle ferait annuler le monde. Vous retrouvez là, ceux qui ont étudié ces choses, un midrash que cite Rashi, qui nous dit que la lumière du commencement n'est pas celle que nous avons dans notre monde. Que cette lumière du commencement, elle est cachée quelque part et elle ne sera rendue qu'au tzadikim et après le jugement dernier. Okay? La lumière des 7 jours. Certains textes disent la lumière des 6 jours. D'autres dire la lumière du premier jour, mais ça va au même. Ce or qui s'appelle le or aganous, la lumière cachée. Et nous n'avons qu'une lumière diminuée. Vous rappelez, Yehi or, Vayehi or. Le or de Vayehi or, c'est de la lumière diminuée par rapport au or de Yehi or, qui est la lumière du projet. Et Rachid nous dit, cette lumière de Yehi or est cachée pour les tzadikim. C'est-à-dire, cette lumière nous est diminuée, c'est une lumière d'être, et qui implique toutes les valeurs à la fois. Elle nous est diminuée pour que nous puissions la supporter, pour que le Kéli que nous sommes puisse la supporter. Je vais simplement voir qu'est-ce qu'il me reste comme temps. Ça va encore, oui. Et alors, ici joue un Tzimtzoum dans le premier sens. Cette lumière qui revient est un cave, un rayon du soleil d'où elle procède. Ce sont des images. Et vous comprenez qu'il faut un éloignement considérable pour que l'être créé, l'être qui n'est qu'en tant qu'il reçoit l'être de créature, puisse subsister dans son être, il faut un éloignement considérable par rapport au Ensof pour qu'il subsiste. Je peux ne vous donner qu'une image que les kabbalistes ont donnée. Pour que le rayon qui me vienne du soleil ne me brûle pas, il faut que je sois loin du soleil. Est-ce que c'est clair? Et alors, c'est dans cet éloignement que ce cave apparaît et qui s'appelle Tzinor. On va réfléchir un peu sur le terme de Tzinor. Ça veut dire en hébreu un tuyau, un conduit, un cave, un rayon, okay? Tzinor. C'est par ces Tzinorot qui vont se différencier que nous vient le or d'en haut qui nous donne l'être. Mais qu'est-ce qu'on appelle les Tzinorot? Pareil, un de mes élèves m'a dit qu'il y a dans Kafka le récit d'une réflexion qu'il a eue en regardant les conduits d'eau d'une maison en construction. Il a compris des mystères. Il y a des conduits, des tzinorotes, qui nous relient au monde d'en haut, et à travers lesquels, à travers ces tzinorotes, nous vient cette lumière qui nous fait être, cette lumière d'être qui nous fait être. Et oui, qu'elle se transforme dans ce passage des mondes, de l'être donnant l'être à l'être recevant l'être. Et que la créature n'est pas le créateur. Vous rattachez, vous comprenez. C'est clair jusque-là? Oui, ce mot de Tzinor a les mêmes lettres d'un autre mot hébreu qui va jouer un grand rôle dans l'analyse ici, qui est le mot de Ratson. Ratson, ça veut dire
volonté.
La volonté. Oui, le projet du Créateur, sa volonté, Yehi Ratson, qu'il y ait un Ratson, mais la formule de la prière, okay, s'accroche là. Okay. C'est-à-dire, ce Tzinor dont j'ai parlé dans cette image, c'est le Ratson Hachem, c'est le Ratson du Créateur qui veut me faire être. C'est ici que le projet du Créateur s'introduit dans notre monde. Par un conduit qui s'appelle Tzinor, mais qui est Ratson. Alors vous voyez que la réflexion de la Kabbalah va nous faire monter du vocabulaire humain que nous ne connaissions que sur le plan le plus grossier matériel à la signification spirituelle de ce même vocabulaire humain. Okay? On a appris une chose, la première, dans cet ordre d'idées, que partout il y a Tzinor, en réalité il y a un Ratson. C'est les mêmes lettres en hébreu. Regardez bien. Okay. N'allez pas raconter ces choses-là à l'Ulpan, vous risquez de les scandaliser. Mais c'est la vraie grammaire qui est là. Okay. Et alors, j'utilise tout de suite une autre équivalence. C'est que la valeur numérique